Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse. On se tutoie ? Souvent, cette question marque un cap dans une relation, le passage d'une frontière invisible au travail. Dans de nombreux secteurs d'activité, le tutoiement est de rigueur, même avec ses supérieurs. Entre jeunes, on se tutoie d'emblée. Le « vous » subsiste évidemment quand on s'adresse à un professeur, à son beau-père, à un commerçant, à une employée de la poste, au président de la République ou une passante à qui l'on demande son chemin. La question du « tu » et du « vous » n'a rien d'anodine, comme le rappelle l'un de nos invités, Étienne Kern, dans son nouveau livre. La langue n'est pas seulement un outil de communication, mais aussi un champ de bataille. Le tutoiement et le vouvoiement révèlent des rapports de force, des plus évidents aux plus subtils, dans le domaine du tu et du vous. Parler, c'est agir, c'est construire, remodeler une relation sociale, amicale, intime, professionnelle. Nous verrons à quand remonte l'histoire du tutoiement et du vouvoiement dans la langue française. Le tu et le vous ont-ils la même force dans d'autres langues européennes comme l'espagnol ou l'allemand? Et puis nous évoquerons évidemment le cas de l'anglais moderne où le tu et le vous n'existent pas et vous découvrirez l'histoire étonnante du you. Bref, vous verrez que le tu et le vous sont deux pronoms qui en disent long sur les rapports humains. Bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Bonjour Étienne Kern.
Bonjour.
Vous êtes ancien élève de l'école normale supérieure, professeur en classe préparatoire et vous venez de publier chez Flammarion un livre qui m'a passionné, Le tu et le vous, sous-titré L'art français de compliquer les choses. Bonjour Julie Neveu.
Bonjour Ali.
Vous êtes également normalienne, agrégée d'anglais, maîtresse de conférences en linguistique à Sorbonne Université, dramaturge. Vous intervenez régulièrement dans cette émission et vous avez publié chez Grasset Je parle comme je suis, ce que nos mots disent de nous. Alors Étienne Kern, votre livre commence dans votre lycée quand vous vous retrouvez face à la secrétaire de votre proviseur. Vous entrez avec un peu d'appréhension dans son bureau. Un doute vous saisit. Dois-je lui dire tu ou vous ?
Oui, ce livre est né d'un sentiment d'insécurité linguistique face à la secrétaire du proviseur parce que j'ai jamais su en réalité si j'étais censé la tutoyer ou la vouvoyer. J'ai très peur de... comment dire ? Qu'elle entende des insinuations dans ce que je dis, qui n'y sont pas, mais que la langue véhicule d'une certaine manière d'elle-même. Si je la tutoie d'office, je peux avoir l'air un petit peu familier, un petit peu impoli, voire un petit peu macho. Si je la vouvoie, je peux aussi lui donner à penser que je la mets à distance. Parce qu'il y a une sorte de code implicite à l'éducation nationale, c'est que tous les enseignants se tutoient entre eux. Mais du coup, si je me mets à vouvoyer la secrétaire, je peux lui dire implicitement qu'elle ne fait pas partie de l'équipe professorale. Je la mets un petit peu à la marge. Et non, j'ai jamais su.
Et alors, qu'est-ce que vous avez fait?
Sachez que désormais, je la tutoie. J'en suis très heureux parce que après la parution de ce bouquin, j'ai fini par lui poser la question directement. Et c'est beaucoup plus simple comme ça.
Julie Neveu, nous connaissons tous ce dilemme, cette incertitude.
Oui, en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'Étienne Kern vient de parler de codes. Il y a toujours des codes. Et selon le milieu dans lequel vous arrivez, même momentanément, même 5 minutes dans la rue, il y a un nouveau code. Donc, toute la question, c'est connaissons-nous le code? Donc là, le code de l'éducation nationale favorisait le tu, mais il y avait ces gènes de la part du professeur vis-à-vis de la secrétaire, parce qu'il y avait peut-être une relation hiérarchique là qui allait s'exprimer autrement. Et donc, est-ce qu'on choisit ou non de s'inscrire dans le code ou de le dépasser, de le transcender? Et en fait, ce qui est très intéressant qu'on va voir, j'imagine, pendant toute l'émission, c'est que tu et vous ne prennent leur sens, chacun, que l'un par rapport à l'autre. C'est un microsystème, comme ça marche souvent dans la langue. C'est-à-dire que ici n'a son sens que par rapport à là. Et donc, il y a deux mots qui fonctionnent en paire, et l'un acquiert un sens, occupe des emplois, et l'autre se répartit les autres emplois. Donc, selon que vous choisissez l'un ou l'autre, vous vous inscrivez, en effet, dans une certaine relation vis-à-vis de la personne à qui vous parlez.
Étienne Kern, en matière de tutoiement et de vouvoiement, la peur de mal faire est bien réelle. Cette peur de mal faire rappelle, vous l'écrivez dans votre livre, le deuil de l'enfance.
Oui, parce qu'il y a... il y avait cette liberté dans l'enfance qui est celle du tutoiement universel. Tutoiement à l'égard des parents, tutoiement à l'égard des camarades, tutoiement à l'égard des enseignants dans les petites classes où ça ne pose pas du tout de problème, puisque le code, comme l'a si justement dit Julie Neveu, n'est pas encore intériorisé. Et donc il y a un moment où on finit par tirer les leçons de ce qu'on nous apprend et on s'impose le vouvoiement dans certaines situations.
Julie Neveu,
Oui, et c'est vrai que vous avez raison qu'il y a plein de situations où ça peut être délicat, complexe. Ensuite, moi, je pense que la solution qu'a trouvée Étienne Kern, à savoir poser la question, est toujours une très bonne solution. Alors... Et moi, je vous vois d'office, plutôt. C'est-à-dire que, malgré tout, vous, on va en parler, hein, mais reste la neutralité, plutôt, hein, donc le cadre officiel. Donc moi, s'il y a un doute, je vous vois.
Alors à propos du tu et du vous, Étienne Kern, vous parliez d'insécurité linguistique. Cette question du tu et du vous nous expose à la faute, hein.
Oui, parce que je vais dire est très très convenu, mais il y a cette formule célèbre de Roland Barthes qui dit que la grammaire est fasciste. Alors il faut accepter le point de départ de sa démonstration qui veut que le fascisme soit défini par lui comme ce qui nous oblige à dire quelque chose. Le fascisme nous oblige à dire. Et dans le cas de la langue, nous sommes obligés de marquer notre rapport à l'autre personne en choisissant le tu ou le vous, en choisissant une relation familière ou une relation plus distanciée. De même que je dois choisir un genre, je dois me genrer au masculin ou au féminin. Enfin, il y a une obligation comme ça qui pèse sur moi et qui va déterminer tout l'édifice de la langue.
Alors plutôt que de fascisme, je dirais que c'est une richesse, comme vous le dites d'ailleurs dans votre livre. C'est-à-dire que c'est une ressource que propose notre langue et que propose d'ailleurs la plupart des langues indo-européennes, on y reviendra. Finalement, il y a presque que l'anglais là aujourd'hui qui n'a pas du tout cette distinction. Mais donc c'est une richesse et profitons-en, et je crois que c'est tout à fait votre avis. Et plus on a de choix... Plus on a de chance, et plus on a, et c'est vrai que le marquage est une prise de risque, voilà. Donc il y a des certaines zones du langage où il y a une prise de risque, mais honnêtement, dès qu'on prend la parole, on se risque à apparaître quelque chose. Donc allons-y, franchement.
Alors dans le domaine du tu et du vous, parler, c'est agir. On appelle ça le langage performatif, c'est ça, Julie Neveu?
Alors en linguistique, on parle de performativité surtout à propos des verbes.
Des verbes.
Comme si je vous disais, je vous déclare mari et je sais pas, il y a rien à côté de vous, donc je peux pas vous marier. Et en plus, je ne suis pas mère, donc j'ai pas l'autorité. Mais c'est quand la parole permet de réaliser un procès, un événement. Donc ce serait pas tout à fait performatif. Ensuite, c'est sûr qu'on parle surtout en linguistique pragmatique d'actes de langage. C'est-à-dire que si je vous dis quelque chose, je vous transmets une force illocutoire, on appelle ça, c'est-à-dire que je vous demande de faire quelque chose. Et quand je dis « tu », c'est vrai que je réalise, j'exprime une familiarité et je vous engage à vous conduire d'une certaine façon familière avec moi.
Et oui, Étienne Kern, dans le domaine du tutoiement et du vouvoiement, parler, c'est agir.
Oui, je partage à 100% ce que votre invité dit. On en a un très bel exemple dans le Cid de Corneille. Parce que traditionnellement, on explique que l'action du Cid est lancée par cet acte qui est le soufflet, qui est la gifle, qui est la violence physique exercée par le père de Chimène sur le père de Rodrigue. Alors qu'en réalité, quand on regarde le texte de plus près, la première insulte qui lance l'intrigue, c'est une insulte langagière. C'est un acte langagier. C'est une action et c'est un tutoiement parce que, alors que au début de la scène, les deux hommes se vouvoient, le père de Chimène, qui se sent meurtri parce qu'il n'a pas eu le poste qu'il convoitait, se met à tutoyer le père de Rodrigue en disant ton impudence, téméraire vieillard, aura sa récompense. Et c'est ce tu dans ton impudence qui est d'abord vécu comme une insulte par le père de Rodrigue.
Étienne Kern, je vous cite, adresser un tu et un vous, c'est construire ou remodeler la relation qui nous lie à l'autre.
Oui.
C'est vous, c'est de vous. C'est de vous.
Voilà. Eh bien, la justesse de la formule me paraît telle que je ne sais pas quoi ajouter. Alors, je dirais, pour aller un petit peu plus loin quand même, que effectivement, ça engage la relation à l'autre, mais ça engage aussi très profondément une relation à soi-même. Ça engage la première personne, parce que le choix d'un tu ou d'un vous dit beaucoup de choses de la personne qui parle. Par exemple, personnellement, il y a des personnes que je ne peux pas tutoyer, parce que j'ai trop de respect, ou enfin des choses très très profondes, très ancrées en moi et en mon histoire. Enfin, j'évoque dans l'ouvrage l'exemple d'un collègue justement dans mon lycée que je ne peux pas tutoyer alors qu'il m'invite à le faire parce qu'il était le père d'une amie très chère qui est décédée prématurément. Et donc le père de mon amie morte est comme une figure sacrée pour moi. Je pourrais jamais le tutoyer, même si le code professoral veut qu'en principe je le tutoie. Donc il y a un rapport à soi. Et si je peux continuer, il y a aussi un rapport à l'image que je veux donner de moi-même. Ça engage ce que nous sommes et aussi ce que nous voulons paraître. Et là, on trouverait tout un tas d'exemples dans les habitudes politiques, puisque quand un politicien choisit de plutôt tutoyer et plutôt vouvoyer, il est en général dans la construction d'une certaine image de lui, plus ou moins distant, inaccessible, comme le sphinx Mitterrand qui ne voulait pas être tutoyé, c'est un lapsus, ou à l'inverse, un autre positionnement qui se voudra jovial, proche des gens, sans chichi, comme Chirac ou Sarkozy en offrait des exemples. Voilà.
Julie Neveu.
Oui, non, je suis tout à fait d'accord que le tu ou le vous, le choix du tu ou du vous construit aussi le jeu en miroir. Et on peut penser à comparer, par exemple, Montaigne dans son adresse au lecteur, hein, au début de son livre, 1580. Donc, ainsi, lecteur, je suis moi-même la matière de mon livre. Ce n'est pas raison que tu emploies ton loisir en un sujet si frivole et si vain. Et il ajoute que s'il avait pu, je m'y fusse volontiers peint tout entier et tout nu. Hein. Donc, en fait, il tutoie le lecteur, mais parce que lui-même se présente nu dans cette intimité, c'est le rapport, c'est le contrat de lecture qu'il offre à son lecteur. Et si on compare à quelqu'un comme Houellebecq, extension du domaine de la lutte, que je suis en train de relire, c'est pour ça, ça m'a amusé hier soir. Il se peut, sympathique ami lecteur, que vous soyez vous-même une femme. Il vient de dire qu'il vient de faire la liste de ses échecs terribles avec les femmes pendant les dernières années. Ne vous en faites pas, ce sont des choses qui arrivent. D'ailleurs, ça ne modifie en rien ce que j'ai à vous dire. Je ratisse large. Et en fait, ce que je trouve génial, c'est que, bah oui, en fait, Houellebecq aussi, enfin, le narrateur de Houellebecq, à cette distance vis-à-vis de lui-même qu'il reproduit à l'égard de son lecteur. Donc à chaque fois, moi je dirais que c'est très intéressant, c'est que selon qu'on choisit le tu ou le vous, ce que je trouve important, c'est l'horizontalité, c'est-à-dire qu'il y ait réciprocité. Et là, dans ce dialogue qu'instaure à la fois Montaigne et Houellebecq, ils ont en commun, bien qu'ils choisissent un prénom différent, le même traitement, le même rapport vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis de celui à qui ils s'adressent.
Alors j'aimerais qu'on s'intéresse au cas de l'anglais moderne, l'anglais moderne qui n'emploie qu'un seul pronom d'adresse, le « you ». Quelle est l'origine du « you », Julie Neveu ? Il faut savoir qu'il a existé un « tu » en anglais. Hein.
Oui, alors c'est très très intéressant cette histoire. Donc en fait, au départ, il y avait en vieil anglais « thou » pour le singulier.
Ça s'écrit comment ?
T-H-O-U, « thou ». Et « ye ». Y-E pour le pluriel. Et c'est ça qui est super intéressant. C'est l'évolution. En fait, le fait qu'une forme du pluriel, comme en français, hein, le « vous », on pense, peut-être, c'est une des hypothèses les plus probables, qu'il vient du pluriel, du « vous » du pluriel. Comment une forme du pluriel se met à servir au singulier ? C'est ça la question. Donc avant, en anglais, on avait l'alternance entre « thou », donc du singulier, et « ye » du pluriel. Puis « ye », sous l'influence de la conquête anglo-normande, donc sous l'influence à partir du 11e siècle de la langue française, hein, qui, elle, pratiquait déjà l'alternance entre le « tu » et le « vous », l'anglais s'est mis à hésiter pour le singulier. Et il a pris la forme du pluriel, d'accord, yé, et il a utilisé en alternance avec thou, et on a commencé à avoir une sorte, en fait, on a eu 3-4 siècles seulement, hein, d'emploi en anglais de cette alternance, qui est fascinante et qui donne du sens. Et moi, je suis un peu spécialiste de Shakespeare, que j'enseigne, et bien donc, les pièces de Shakespeare sont remplies d'alternance et qui apporte cette nuance magnifique de sens. Donc les héros de Shakespeare, ces personnages, le roi Lear par exemple, au tout début quand il demande à ses trois filles de dire laquelle l'aime le plus, hein, erreur fatale qui le mènera à sa chute, il dit à Cordelia, donc sa fille préférée, dans un contexte neutre, public, officiel, il lui dit you, et quand elle refuse de lui dire je t'aime mon papa chéri, tu es le plus gentil des papas, et que donc il la bannit, etc., il s'énerve, il se met en colère, et il dit thou. Et à la fin, quand elle est morte, spoiler, elle est morte à la fin. Il prend son cadavre, il se penche sur ce cadavre et il dit thou never breathe anymore, enfin quelque chose comme ça, tu ne respireras plus. Et donc le thou marquait l'intimité, toujours, hein, l'intimité, que ce soit, enfin le sentiment, c'est-à-dire que c'est la proximité du sentiment, parfois c'est la colère, comme au début, il passe de thou à you quand elle ne veut pas dire, pardon, de you à thou quand elle ne veut pas dire qu'elle l'aime, et à la fois il reste toujours dans le thou, quand il montre ses sentiments. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en Angleterre, alors c'est difficile, hein, à vraiment expliquer, mais ce qui semble s'être passé, c'est qu'au cours du XVIIe siècle, il y a eu de plus en plus, en fait, calquant donc le modèle français, il y a eu cet emploi déférent de déférence. On a pris le pluriel pour le singulier, et donc on s'est mis à dire « vous » en anglais, et on s'est aperçu que c'était moins risqué, en fait. Qu'on prenait moins de risques, puisque c'était toujours par défaut, là où il y aurait le moins de sentiments, ça nous exposait moins. Et donc, c'est « you » qui a gagné. Mais vous remarquez que « you », en fait, est une contraction de « ye » et « zao », un petit peu. Donc en fait, je dirais pas... Enfin, ce qui se passe, c'est que « you » a neutralisé cette différence. Donc c'est plus simple. En anglais. Et c'est moins riche aussi.
Zhao qui s'écrit donc T-H-O-U et qui était l'ancien tu. Donc si je vous comprends bien, le you anglais correspond en fait à notre vous.
Ben, en fait, non, je dirais que c'est entre les deux.
C'est entre les deux.
Ouais, il a synthétisé, c'est une forme neutre. Donc, il ne prend pas position. Le you est l'adresse, au singulier, à une personne, qu'on la connaisse bien ou non, qu'on l'aime, qu'on la désire, qu'on la déteste, qu'on la respecte. C'est le you. Et donc, le you a inclus, il a absorbé, il n'y a plus de marquage. Et c'est donc une forme neutre. C'est une neutralisation de cette nuance du français et de beaucoup, la plupart des autres langues romanes et slaves, donc italien, espagnol, allemand, le russe, tout ça.
Et on s'intéressera tout à l'heure à la traduction du you en français avec la traductrice Julie Siboni. Étienne Kern, pour de nombreux anglophones, il peut être difficile de maîtriser l'usage du tu et du vous dans une conversation en français. Hein.
Oui, il y a dans l'histoire politique tout un tas d'anecdotes liées à des faux pas diplomatiques, où un chef d'État étranger ne sait pas trop quelle forme employer quand il prononce quelques mots en français. Il paraît que Jacques Chirac a fait la grimace un jour quand Tony Blair l'a tutoyé publiquement, ce qu'il devait se faire probablement dans l'intimité, mais pas en public, pour ces raisons de code. Ce détour par l'anglais m'a paru absolument passionnant, et j'ajouterais simplement que, enfin, je parle sous le contrôle évidemment de Julie Neveu, mais que cette forme de tutoiement, thou, s'est spécialisée dans le domaine religieux, et on a là aussi un enjeu tout à fait intéressant pour la question du tu et du vous, c'est que cette dimension plus intime, plus profonde, plus affective du tutoiement a été projetée en fait sur le religieux, un rapport intime à Dieu, qui fait que cette forme thou se maintient dans un cadre qui est devenu extrêmement solennel, le cadre liturgique, le cadre religieux, tout en ayant un lien avec l'intimité profonde.
Alors qu'en est-il du tutoiement dans les autres langues européennes? Je pense à l'allemand, à l'espagnol, à l'italien. Étienne Kern.
Alors, ce qu'on constate, c'est qu'il y a parfois, comme en français, un système binaire, comme en allemand, où on a le choix, ou en russe, entre deux pronoms, ou alors un système ternaire, avec une troisième forme, qui est une forme plus déférente, plus polie encore que le vouvoiement, et qui correspond à ce qu'on a en français quand on dit, par exemple, « Madame a-t-elle fait son choix dans un restaurant ?» ou « Sa Majesté face au roi ?» Sauf qu'en français, il n'y a pas de pronom à part pour dire ça. Il y a une périphrase, je veux dire, ou un nom, enfin « Madame » ou « Sa Majesté », alors que, par exemple, en italien, historiquement, il y a cette troisième forme qui est « Lei », L-E-Y avec une majuscule en principe, qui est, à la base, une forme de troisième personne du singulier, lei avec une minuscule, mais la majuscule va marquer la déférence. Et il est très intéressant de savoir que c'est une forme de féminin singulier, parce que ça sous-entend un terme équivalent à grâce, majesté, grandeur, éminence, c'est-à-dire une formule d'adresse qui prend sens dans un cadre de cours, dans un cadre de soumission à des princes, ou des puissants, ou des cardinaux, etc., à l'époque de la Renaissance. Et donc, il y a la perpétuation dans ce lei, comme vous êtes d'ailleurs en espagnol, hein, qui vient de votre grâce qui a été contractée, il y a la perpétuation d'un système extrêmement hiérarchique qui vient de la Renaissance. C'est pour cette raison, ou c'est l'une des raisons, qui a fait que Mussolini, à partir de 1938, a voulu abolir, a voulu interdire, absolument interdire, le lei, en disant que c'était... une soumission insupportable par rapport à l'idéal d'un homme régénéré, aussi que c'est une forme étrangère, parce que pour Mussolini ça vient de l'espagnol, ça c'est très compliqué, mais il y a une forme de xénophobie comme ça dans ce projet de refonte de la langue italienne, et il y a aussi probablement l'idée que cette forme féminine pose problème à un système aussi viriliste qu'est le fascisme italien.
Usted, qui veut dire vous en espagnol, et lei en italien, qui s'écrit L-E-Y-E. L-E-I. Julie Neveu.
Ouais, ce que je trouve super intéressant, c'est que donc en français, vous voyez que c'est le pluriel hein, qui s'est mis à désigner du singulier. Et donc de réfléchir, bah, on sait que des hypothèses encore, hein, mais il semblerait que ce soit... Comment ? On peut tous se demander. En fait, c'est assez simple. Enfin, c'est une hypothèse, mais comment le pluriel se met à désigner, à servir d'adresse au singulier, disant le respect et la distance et la déférence. Eh bien, il semblerait que la pluralité, c'est la supériorité numérique. Vous voyez, c'est une des façons les plus simples. Moi, je suis seul et vous, si vous êtes plus nombreux, eh bien, vous êtes supérieur à moi de cette façon-là. Donc, la langue aurait enregistré ce qui était disponible dans son lexique, dans sa grammaire, à savoir le signe du pluriel, pour marquer cette différence au singulier.
Julien Macarez et Claire Destacan m'ont aidé à préparer cette émission avec la collaboration de Manon Cancé. La réalisation est signée Stéphanie Texier, la programmation musicale Muriel Pérez, et on écoute Police. Interpréter Can't Stand Losing You.
Raymond, on se tutoie pas alors, hein ?
Grand bien vous fasse.
Non, ni on se tutoie pas, ni on se vous voit pas,
voilà.
Ni on ne parle pas chez moi.
Sur France Inter.
Ce que le tutoiement et le vouvoiement disent de nous, eh bien, c'est notre thème cet après-midi avec la linguiste Julie Neveu et le lexicographe Jean Pruvot.
Bon, écoute mon petit coco.
Tout d'abord, je ne suis pas ton petit coco, je suis le petit coco de personne. Est-ce que j'ai une tête de petit coco ?
Comme tu veux.
Ah oui, justement, au sujet de comme tu veux, je voudrais te demander de ne plus me tutoyer.
En français, il y a tu et vous. Tu, c'est pour les amoureux.
Marielle, vous savez que vous êtes très belle en ce moment. Vous me faites bander, Marielle.
Les amis.
Nous ne sommes pas amis, vous le savez, nous jouons pas la comédie.
Pas de faire voir.
C'est pas
très
du...
Bien. Merci,
du touche comme ça.
C'est très aimable.
On s'est toujours tutoyé, s'il a pas envie qu'il aille tutoyer Castro et qu'il me foute la paix.
La famille.
Dans un ménage comme le nôtre, qui a acquis une certaine aisance, une certaine classe, on ne se tutoie plus.
On ne se tutoie plus ? On ne se tutoie plus ?
On ne se tutoie plus ?
Non, on ne se tutoie plus jamais.
Vous, c'est pour...
Je sais pas si je dois tutoyer ou vous voyez mon patron, par exemple. Hein, si je le tutoie et qu'il faut pas, je suis fiché. Si je le vous vois et qu'il faut pas, je suis fiché aussi. Alors j'ai trouvé une astuce. Le... Tu dis rien.
Bonjour Cyprien, ça va ?
Oui, ça va ?
J'imagine que ça va ?
Oui, ça va, merci. Bonne journée !
Même les Français ne savent pas toujours s'il faut tutoyer ou vous voyez.
Non, écoute. Je ne te permets pas de me vous voyer. Enfin, je ne me permets pas de me tutoyer. Ça suffira.
Julie Neveu, je rappelle que vous êtes linguiste et dramaturge. Vous preniez plein de notes pendant la diffusion du medley signé Stéphanie Texier.
Eh oui, ça m'a donné envie de parler de sexe. Alors, vous me faites bander, Marielle. Donc, je cite... Non, ce qui est très intéressant là, c'est qu'il y a un jeu donc avec le code, puisqu'en effet, a priori, hein, on va dire, dans la norme, quand on couche avec quelqu'un, on est à petit peu intime. Donc on accède à une sorte des domaines de l'intime. Et donc on dit plutôt tu. Et donc ce qui est très intéressant, c'est que vous avez des jeux avec ça. Et le jeu, c'est toujours l'écart par rapport à la norme, hein. Donc là, vous me faites bander Marielle. Pourquoi ça peut être très érotique de dire vous dans une relation comme ça intime? Eh bien, puisque ça réinstaure l'altérité, la nouveauté qui est l'excitation principale, n'est-ce pas? Enfin. Disons, une des sources d'excitation. Et puis, donc ça me fait penser à la chanson de cette reine de la soul, Patti LaBelle. Hein, voulez-vous coucher avec moi ce soir? Bon, eh bien en fait, juste avant ça, elle avait dit, hey Joe, do you want to have it a go? Est-ce que tu veux y aller, quoi? Vas-y. Et puis en fait, ça marche mieux en français. Et en français, il y a le vous. Et c'est encore plus excitant, puisqu'en effet, avec le vous, vous comprenez que c'est un inconnu à qui on propose de coucher. Donc c'est toujours le jeu entre les deux, quoi, qui est source de sens et d'érotisme parfois.
Étienne Kern, dans votre livre « Le tu et le vous, l'art français de compliquer les choses », hein, vous revenez sur le tutoiement et le vouvoiement en matière d'amour et de sexualité. Hein.
Oui, pour dire en fait la même chose, c'est-à-dire que en général, le passage au tutoiement enregistre une étape importante qui est le passage à une intimité beaucoup plus forte. Ce qu'on voit souvent en littérature, ou ce qu'on voit par exemple dans la correspondance de Mitterrand avec Anne Pinjot, qui a été publiée récemment, les deux amants en fait passent au tu de manière très spectaculaire, après la première nuit d'amour passée ensemble. Et oui, mais il y a effectivement ces écarts très souvent, ce rapport ludique au vouvoiement qui est investi d'une forme d'aura érotique. C'est Ariel Dombal qui dit que le vous est comme une caresse, qu'il est plus sensuel ne serait-ce qu'au niveau des sonorités. Et puis il y a évidemment ce côté jeu de rôle, où on joue à être avec un inconnu. Et au-delà peut-être de la... Enfin, si je peux continuer.
Allez-y.
Je peux pas vous couper la parole. Au-delà de la dimension purement érotique, il y a aussi, au sein du couple, dans la vie quotidienne, souvent des couples qui inventent leur propre code. Un peu comme les surnoms. Je veux dire, quand on donne des petits surnoms, on singularise la relation à l'être aimé. Eh bien, il y a des couples comme ça qui s'amusent à tantôt se dire tu, tantôt se dire vous. Et j'ai vu récemment une très belle interview de Michel Piccoli, qu'on interrogeait sur sa relation avec Juliette Gréco à l'époque où ils étaient mariés ensemble. Et Piccoli explique qu'entre lui et elle, ils passent comme ça, du tu ou vous, très naturellement. Et il dit que dire à la fois tu et vous, ça fait comme une vie en plus. Comme si on avait deux vies comme ça, le tu, le vous. Je trouve ça très très beau.
Il y a des tu l'amour et des tu par amour. Il existe un charme du tutoiement conjugal. Je vous cite Étienne Kern. Vous voyez, l'être aimé, c'est lui dire qu'il demeure sans égal, mystérieux, inaccessible à milieu des contingences du quotidien et des autres. Et nous accueillons Françoise. Bonjour Françoise.
Bonjour Ali.
Bonjour. On va se vouvoyer. Françoise, on ne se connaît pas, mais vous, depuis une quarantaine d'années, vous travaillez avec votre mari. Et comment vous fonctionnez? Est-ce que vous vous tutoyez ou est-ce que vous vous voyez dans le cadre du travail?
Alors, je vais vous expliquer, c'est simple. À la maison, nous nous tutoyons. Et lorsque mon mari a eu l'idée intéressante de me proposer de travailler avec lui, il était gérant d'un supermarché, il m'a proposé la place de caissière centrale. Donc, nous cohabitions de façon très étroite. J'ai dit oui, mais à condition que nous appelions monsieur, madame, et que nous employions le vouvoiement. Et il me regarde avec de grands yeux, mais il me dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Mais je lui dis, écoute, tous les jours, on est ensemble, on va faire la route ensemble, on va être toute la journée ensemble, je pense qu'à un moment donné, on va s'engueuler. Et si tu dis, vous et madame, je pense que tu ne m'engueuleras pas du tout de la même façon.
C'est
facile de dire, tu m'emmerdes, mais dire, madame X, vous m'emmerdez, je pense que ça prend une autre dimension. Donc il a accepté en riant. Les employés s'amusaient de cette situation, nous trouvaient un peu snob, mais c'était pas du tout du snobisme, c'était pour sauver notre couple et ça l'a sauvé.
Ah, c'est très très drôle. Est-ce qu'il y a eu un jeu à un moment donné entre ce vous et ce tu entre vous? Est-ce que ça...
Quelque part.
Ça a cru une complicité.
Oui, j'aime beaucoup. Oui, quelque part, lorsqu'il me disait madame, c'était vous, c'était comme si il me draguait quelque part.
Ah, c'est très très drôle, Françoise. Julie Neveu.
Oui, moi je trouve ça super. Et Françoise a senti la nécessité aussi de distinguer l'espace public et l'espace privé. Et ça, je trouve ça fondamental. Moi, je suis plutôt contre, en fait, de dire tu dans un nouveau travail, on arrive. Non, tout le monde se dit vous, en fait. Du moins, il faut la réciprocité, ça c'est sûr. Et surtout, il faut, qu'on laisse la liberté liberté en fait à l'autre d'être pleinement un individu, de faire ses requêtes, chose qu'il peut difficilement faire s'il y a trop de sentiments et d'affects. Moi, je sais que j'ai toujours vouvoyé mes élèves parce que je trouve que en fait la seule chose qui nous sépare, c'est peut-être les quelques connaissances que je vais essayer de leur transmettre, mais par ailleurs, ce sont des adultes, bon, ils sont à la fac, et surtout, l'espace professionnel, je trouve ça bien qu'il y ait ce pied d'égalité. Voilà, mais par ailleurs, juste pour l'anecdote, moi, quand j'étais petite, mes parents ont un couple d'amis qui se vouvoient, en fait, et qui s'engueulaient très très fort, donc ça n'empêche pas, et donc il y avait des formules comme « Enfant, bouchez-vous les oreilles, chérie, vous m'emmerdez !» que je trouvais très très bonne.
Étienne Kern, sur le témoignage de Françoise.
Ah oui, j'ai trouvé ça absolument charmant, et je comprends très bien moi aussi cette nécessité d'instaurer les règles du jeu, en fait, pour se protéger. Et il est vrai que depuis les années 70 à peu près, il y a un fort mouvement en faveur du tutoiement en entreprise, et assez souvent on voit revenir l'idée que c'est pas forcément un progrès, parce que ce qui contribue à fragiliser la séparation entre ce qui est intime, ce qui est amical, ce qui est personnel et ce qui est professionnel, peut créer le début d'une forme de harcèlement moral. Quand on sait plus trop où se met le curseur entre l'amitié et la hiérarchie professionnelle, on peut se retrouver à devoir faire des choses qu'on n'aurait pas faites avant et qui nous sont imposées.
Françoise,
ça culpabilise la relation.
Françoise-Marie, va dans votre sens. Mes parents se vouvoyaient, en particulier quand ils se disputaient. « Vous faites chier Dumas », je la cite, disait ma mère à mon père. Cela donnait un aspect théâtral à leur dispute, mais ma mère m'a expliqué plus tard que c'était surtout une manière de placer entre eux une distance qui n'avait rien de hiérarchique et de vertical, mais qui s'apparentait davantage au respect et leur permettait de toujours prendre un peu de recul. Ils se disaient aussi souvent « Je vous aime » avec une grande tendresse. Merci beaucoup Françoise pour votre joli témoignage. Alors, Étienne Kern, existe-t-il des règles fondamentales du tutoiement et du vouvoiement? Est-ce qu'on peut parler d'une règle de la proximité et de l'éloignement? Le grand sociologue Norbert Elias parle d'idéologie égalitaire de politesse. Si on est proche, on se tutoie, et si on est lointain, on se vouvoie. C'est pas si simple que ça, hein, Étienne Kern. Hein,
oui, parce que cette question qui repose en fait sur la distance est forcément relative. Parce qu'une distance doit être évaluée, je veux dire, elle n'est pas objective. Et donc, il y a à la fois une distance qui tient à l'âge, avec plutôt une tendance à vouvoyer des personnes âgées, éloignées de nous dans le temps, quand elles sont plus âgées, pas quand elles sont plus jeunes, sinon c'est l'inverse. Il y a la distance affective, on va plutôt tutoyer un proche, plutôt vouvoyer un inconnu. Et il y a ce qu'on pourrait appeler une distance sociale, une distance hiérarchique. On va plutôt vouvoyer, je sais pas, un juge ou un magistrat, un politique, un policier, je sais pas, quelqu'un qui incarne une autorité, ou un professeur, que quelqu'un qui n'a pas cette autorité vis-à-vis de nous. Mais ces principes sont très fragiles, parce qu'ils sont subjectifs, comme je l'ai dit, et souvent ils peuvent entrer en conflit les uns avec les autres. Et on sait pas trop ce qui doit l'emporter. Par exemple, j'ai lu il y a quelque temps un témoignage très intéressant du maire de Tulle, à l'époque où François Hollande est devenu président de la République et où François Hollande a appelé son ami à l'Élysée pour devenir conseiller. Et le maire de Tulle explique qu'il ne sait pas encore, à ce stade, s'il va pouvoir continuer à tutoyer son ami François Hollande, parce qu'il y a une sorte de conflit entre la distance affective et la distance sociale.
Et il peut y avoir de la proximité dans le vous et de la distance dans le tu. Alors, ce qui est étonnant avec le tu et le vous, c'est sa plasticité. Hein. Prenons le cas d'un ministre. S'il me reçoit dans son bureau, je vais le vouvoyer. Mais si je vais manifester contre lui dans la rue, je vais sans doute le tutoyer. Selon les époques, les lycéens peuvent crier en manif « Devaquer, t'es foutu, Blanquer, t'es foutu ». Et s'ils sont reçus en délégation dans le bureau du ministre de l'Éducation, ils vont sans doute le « vous voyez ».
C'est passionnant ce tutoiement des manifestants. D'abord, ça vient plutôt de la droite et pas de la gauche. Parce que, sauf erreur de ma part, le plus ancien slogan, c'est « De Gaulle, t'es pas seul », en 68, dans les contre-manifestations. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce tutoiement est très différent d'un tutoiement individuel, comme vous l'aviez dit. C'est pas une vraie situation d'énonciation. C'est-à-dire que le locuteur est multiple, est pluriel. Personne n'assume vraiment ce « tu ». Et donc, on est tous un peu protégés. C'est pas moi, personnellement, qui, dans la manifestation, me permet de tutoyer le ministre ou le président. C'est le groupe, c'est la masse. Donc, je ne risque absolument rien. Et voilà, il y a une neutralisation de cette prise de risque, qui est en général le tutoiement face à quelqu'un.
Julie Neveu.
Ouais, je suis tout à fait d'accord. Il y a pas de prise de risque. Il y a l'appropriation d'un slogan qui ne fait qu'exprimer le mépris. Donc le tu a tout à fait servi à servir à exprimer les sentiments, dont le mépris. Hein. Donc là, c'est un tu de mépris que je pense ils ne reprendraient pas à leur compte. En effet, s'ils étaient face à face avec la personne à laquelle ils s'adressent en tant qu'entité révoltée. Quoi.
Parfois, ce tutoiement pluriel n'incarne pas le mépris, mais au contraire une forme de d'élan d'amour, comme face à une star. Je veux dire, Neymar, on t'aime, Patrick Burel à l'époque, etc. Ah oui. C'est aussi un tutoiement collectif. Il y a eu il y a quelques années une banderole qui a été suspendue à Périgueux, sur le grand pont de Périgueux, qui était « Brigitte, tu es belle ».
Ah oui.
Et ce « Brigitte, tu es belle » s'adressait à Brigitte Macron au moment où elle avait été attaquée par le président brésilien.
Bolsonaro.
Voilà, exactement. C'était un tutoiement affectueux, pour le coup, mais aussi un tutoiement pluriel. C'est le même que celui des manifestants, l'hostilité en moins. Oui. Et il exprime aussi une forme de sentiment d'affection qu'on a vis-à-vis des gens célèbres.
Oui.
Voilà, une fausse proximité qui est créée par la notoriété, comme on le voit bien quand une star de cinéma ou un joueur de foot, par exemple, est assailli par une horde de gens qui vont se mettre à le tutoyer.
Alors, Étienne Kern, vous racontez pourquoi le tutoiement et le vouvoiement ont donné corps à une conception profondément hiérarchique de la société. Prenons l'exemple de ces enfants qui ont longtemps vouvoyé leurs parents dans l'aristocratie et la haute bourgeoisie. Au XVIIIe siècle, le vouvoiement règne en maître dans les familles. Hein. Le vouvoiement traduit la relation verticale parents-enfants. Hein.
Oui, en fait, depuis le 12e, 13e, 14e siècle, enfin, depuis le Moyen-Âge, il y a une logique absolument verticale qui régit les usages en matière de pronoms. Et donc, on attend qu'un enfant vouvoie ses parents, tandis que les parents tutoient sans problème l'enfant, sauf dans les grandes familles aristocratiques au XVIIe siècle, pour des raisons de conscience de classe. Et ce système s'estompe au XVIIIe siècle, parce qu'on voit apparaître à la fin du XVIIIe siècle, ce qui ne se faisait pas avant, le tutoiement des parents par les enfants. Donc un tutoiement qui devient réciproque, dont on a des traces un petit peu, par exemple, dans le mariage de Figaro à la fin du XVIIIe siècle, ou dans certains témoignages littéraires ou des vraies lettres. Et ça se développe au XIXe siècle. Mais c'est une sorte de nouveauté, et la Révolution a contribué à ce mouvement. Mmh. Il y a une forme de révolution des rapports sociaux, comme le disent les historiens, et donc des rapports langagiers, avec la Révolution française, qui joue en faveur du tutoiement réciproque.
Et avec la Révolution, est-ce que le tutoiement s'impose facilement ?
Oui, d'autant plus que le pouvoir révolutionnaire a très sérieusement voulu abolir le vouvoiement. À partir de 1791-92 à peu près, d'abord dans des cercles d'idées, dans des revues, des clubs politiques comme il y en avait à l'époque, cette idée fait son chemin. On se dit que si on veut vraiment révolutionner l'État, si on veut vraiment changer le système politique, mettre à bas le féodalisme, il faut changer la langue. Et donc il faut arrêter de dire « monsieur » parce que « monsieur » c'est « monsieur ». Il faut arrêter de dire « madame » parce que dans « madame » il y a la dame domina, la maîtresse en latin. Et il faut arrêter de vouvoyer les gens, il faut arrêter de leur donner des titres de noblesse. Et ce grand mouvement de fond contre le vouvoiement et les titres de noblesse et les formules de politesse est très sérieusement débattu à l'Assemblée nationale, enfin à l'Assemblée constituante. Et il y a des propositions de loi comme ça qui sont proposées par des députés qui veulent que l'État interdise le « vous ». Alors en pratique, ça s'est pas fait, les débats sont compliqués. Et en même temps, les débats sont passionnants parce que on voit un conflit entre deux des grandes devises nationales. Il y a un conflit entre l'égalité, parce que c'est au nom de l'égalité qu'on veut abolir le vous, et la liberté, parce que ceux qui défendent le maintien du système en place disent qu'on ne peut pas forcer les gens à parler d'une manière ou d'une autre, et donc que la liberté doit être plus importante que l'égalité prédominale.
Alors Étienne Kern, revenons au XXIe siècle. Vous remarquez avec justesse que la situation entre beaux-parents et pièces rapportées entre guillemets, rappelle furieusement la situation qui prévalait entre parents et enfants au XVIIIe siècle. Alors il n'existe pas de règles entre beaux-parents, gendre et bru, peu de règles mais beaucoup de complications. Hein.
Oui. Alors, les seules données chiffrées que j'ai pu consulter indiquent que, en gros, 80% des gens vouvoient leurs beaux-parents. Donc, c'est quand même majoritairement le vous des plus jeunes vers les beaux-parents qui s'imposent. Et il y a une étrange différence entre le beau-père et la belle-mère, c'est-à-dire que la belle-mère est un peu plus souvent tutoyée que le beau-père. Dans l'idée que... peut-être que la belle-mère est un peu moins intimidante que le beau-père. Peut-être qu'il y a un fond de machisme. Ce qui est très étrange, c'est que c'est une inversion de ce qu'il y avait précédemment, parce qu'il y a un bon siècle, c'était plutôt l'inverse. Bon, il était très rare de tutoyer ses beaux-parents, mais on tutoyait du coup plutôt le père que la mère, parce qu'il y avait à l'époque une règle de galanterie qui s'est estompée aujourd'hui, mais qui était très très ancrée, qui veut que face à une femme, on va plutôt dire vous que face à un homme.
Julie Neveu.
Oui, je me demandais si vos statistiques incluaient l'adresse faite par les beaux-parents à l'égard des gendres et des bruits, parce que et peut-être qu'on dit vous, parce qu'ils disent vous, et donc il y a réciprocité finalement.
J'avoue que j'ai plus en tête les données exactes, mais de mémoire, dans l'autre sens, c'est beaucoup plus... Beaucoup moins net.
D'accord.
Donc c'est pas 80-20%, c'est plutôt 50-50. Et puis ça c'est encore sur le papier, parce que très souvent au sein des familles, on peut constater que par exemple, je sais pas, le beau-père va dire tu, la belle-mère va dire vous. Si on ajoute à cela les remariages ou les familles recomposées, c'est d'une complexité extrême. Et en même temps, c'est très savoureux parce que ça a un côté vaudevillesque, oui. Comique.
Étienne Kern, le vouvoiement perd-il du terrain dans le monde du travail? Le tutoiement au bureau, à l'atelier, sur un chantier, promet des relations plus détendues, plus égalitaires, entre guillemets. Est-ce que le tutoiement s'impose de la même sorte dans tous les milieux professionnels?
Alors, d'une manière générale, le « vous » recule. Depuis les années 70, dans le milieu de l'entreprise, il y a l'effet mai 68 qui a forcément joué, et il y a aussi l'influence de nouvelles logiques managériales qui viennent en gros d'un modèle anglo-saxon. Et donc il y a ce paradoxe que le you anglais est en fait un peu perçu comme un tu, dans les entreprises. Ça paraît plus moderne, ça paraît plus jeune, ça paraît plus dynamique, et ça promet des relations plus simples, plus familiales. Et donc, au nom de toutes ces valeurs, à partir des années 70, on promeut le tutoiement en entreprise. Et il y a effectivement des variations selon le milieu. Par exemple, dans les milieux qui cultivent une certaine image de respectabilité, par exemple la banque, le vouvoiement est encore incontournable. On va pas tutoyer, la personne qui vient déposer des sous, alors que dans des milieux où au contraire on va cultiver une image de modernité, de dynamisme, comme par exemple, les entreprises publicitaires, les médias, la communication, là le tutoiement est beaucoup plus facile.
Bon, il faut pas se leurrer, hein. Le tu n'abolit pas vraiment les frontières hiérarchiques. Hein.
Il les maquille.
Et puis à la radio, il me viendrait pas à l'idée de tutoyer un auditeur, bien un chroniqueur, même si je le tutoie dans la vie. Dans ce sens, Paola nous écrit « Je suis interpellée par le vouvoiement à la radio entre collègues chroniqueurs. Je suis italienne et je remarque une plus grande formalité en France qu'en Italie pour s'adresser à ses interlocuteurs. Et je sais que les journalistes italiens se tutoient à l'antenne. Le contraire serait inconcevable. » Étienne Kern.
Oui. Ce que ça révèle, c'est la profonde résistance du vouvoiement en France par rapport aux autres langues européennes, mais aussi par rapport aux Français en Suisse, en Belgique ou au Québec, où le tutoiement est beaucoup plus vigoureux. Par exemple, les catalogues Ikea tutoient le consommateur en Suisse. Les affiches publicitaires des chemins de fer, par exemple, tutoient aussi beaucoup plus facilement le client. Alors qu'en France, il y a des tentatives, mais souvent les tentatives n'aboutissent pas. En 2017, la SNCF a créé sur Facebook un robot conversationnel qui proposait d'acheter des billets de train par Facebook. Donc ça n'a pas marché en fait. Mais surtout, ce qui n'a pas marché, c'est que ce robot conversationnel donc tutoyait les gens. Dans l'idée qu'on est sur Facebook et donc on est sur Internet, on est dans une relation plus moderne, quoi, une sorte de tutoiement 2.0. Et ça n'a pas marché. Et la SNCF a fait machine arrière et a remis le vouvoiement dans le logiciel. Et ça prend pas trop en fait. Il y a un attachement en fait en France au vous, au cadre de la politesse.
Oui, ce sera donc une exception culturelle de la France de continuer à cultiver son vous. Vous, et tout à l'heure, caresse érotique Ariel Dombas, je peux faire une seconde de phonétique. Vous, ça vibre, vous posez votre main sur votre cou et ça fait vzz, ce qu'on appelle une fricative, alors que c'est une plosive, ça explose et c'est très bref.
Il y a eu un canular le 1er avril 2020. Le Monde a publié un canular qui disait que l'Académie française, pour lutter contre la propagation du coronavirus, incitait les gens à ne plus tutoyer. Parce que le tu
projette plus de postillons.
Davantage de postillons, exactement.
Allez, dans quelques instants, nous recevons la traductrice Julie Siboni qui nous racontera son métier de traductrice de l'anglais et l'épineux sujet du tu et du vous qui n'existe pas en anglais moderne. Vous.
suis fier de faire partie de vous.
D'écouter Jacques qui interprétait vous.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Ce que le tutoiement et le vouvoiement disent de nous, eh bien, c'est notre thème cet après-midi avec la linguiste Julie Neveu et le lexicographe Jean Pruvot. Et nous accueillons Julie Siboni. Bonjour Julie Siboni.
Bonjour.
Vous êtes traductrice de l'anglais, vous avez notamment traduit chez Sonatine « L'accident de chasse », un roman graphique de David Carlson et Landis Blair, ou encore « La mer sans étoiles », un roman fantastique d'Erin Morgenstern, chez le même auditeur. Julie Siboni, comment procédez-vous quand il faut traduire le « tu et le vous » qui n'existe pas dans l'imaginaire d'un auteur anglophone? Quelles sont les principales difficultés?
Alors, c'est une vaste question, puisque effectivement, ce que disait votre invité tout à l'heure, c'est qu'en anglais, le « you » ne prend pas position. Et nous, quand on traduit en français, on est bien obligé de prendre position. On ne peut pas rester dans la neutralité. Il faut bien que les gens se disent « tu ou vous ». Donc c'est une responsabilité en fait qui nous incombe de décider si les personnages vont se tutoyer ou se vouvoyer. La plupart du temps, en vrai, ça pose pas tellement de problèmes parce que quand on est dans des situations évidentes, par exemple dans une famille classique, le mari et une femme vont se tutoyer, deux copains de lycée vont se tutoyer, mais on peut jouer dans certains cas sur le tu ou le vous pour en fait ajouter quelque chose à la caractérisation d'un personnage. C'est ce que disait aussi tout à l'heure Julie Neveu, c'est qu'en fait c'est une ressource du français que d'avoir le tu et le vous. Et en traduction, on perd toujours beaucoup de choses quand on traduit d'une langue à l'autre, donc il faut essayer d'en gagner aussi à certains autres endroits et introduire ces nuances de tutoiement ou de vouvoiement peut permettre en fait d'apporter quelque chose qui n'est pas dans le texte original, mais qu'on doit nous-mêmes supposer. Qu'est-ce que ces personnages, comment ils se parleraient en français si l'auteur les avait écrits en français? Alors, le cas classique, c'est évidemment qu'on a souvent un basculement au cours du livre quand les personnages deviennent plus intimes. C'est ce qui a été dit tout à l'heure dans la vraie vie, hein, avec le passage au-dessus quand les gens passent d'amis à amants, par exemple. Et un cas typique, par exemple, c'est dans les romans à l'eau de rose. Moi, quand j'ai commencé à traduire, j'ai traduit des romans Harlequin. Et alors là, c'était très drôle parce que c'était quasiment codifié. C'est-à-dire, au chapitre 5, ils s'embrassent. Et alors là, ils se tutoient. Et le tutoiement devient de manière plus subtile, hein, pas que dans les romans à l'eau de rose, mais dans d'autres romans, le tutoiement devient un signe. En fait, le moment où on choisit, nous, comme traducteurs, de faire que les personnages vont passer du vouvoiement au tutoiement, on indique au lecteur que là, il s'est passé quelque chose dans leur relation.
Julie Siboni, si j'ai bien compris votre travail de traductrice littéraire, eh bien ça ressemble à un travail de Sherlock Holmes ou d'Hercule Poirot. Vous êtes attentif aux indices, au ton adopté dans le roman, à la gestuelle, à la façon de parler, au vocabulaire soutenu ou familier. C'est passionnant.
Bah exactement. En fait, quand on traduit un livre, on devient très très familier soi-même avec les personnages, avec l'univers. Et bon, par exemple, si un personnage est dans le livre plutôt méprisant, on va lui ajouter le tutoiement à des endroits où En fait, on aurait attendu le vouvoiement exprès pour accentuer ce trait de personnalité qui, là encore, n'aura pas été pris en charge par l'auteur, puisqu'en anglais, il ne peut pas jouer là-dessus. Mais puisque c'est un outil dont on dispose, nous, en français, ça permet de, c'est en fait une manière de traduire en plus, voilà, de traduire en plus. Il y a des fois où on va à contre-courant aussi. Je me souviens d'un personnage dans un roman qui était une fille un peu mal à l'aise en société. Et elle, j'avais décidé très exprès, je veux dire, qu'elle continuerait à vouvoyer les gens même quand les gens se mettraient à la tutoyer. Parce qu'elle est pas cool. Elle y arrive pas. Donc ça dit quelque chose sur elle en fait.
Merci à tous d'être intervenus dans cette émission. Merci Julie Neveu, merci Étienne Kern. Je recommande le Tu et le Vous, l'art français de compliquer les choses, et c'est publié chez Flammarion. Demain, comment les ruptures nous transforment.